Le professeur Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, disait que on vit dans un monde qui n'a jamais été aussi prospère et en même temps jamais été aussi inégal. Et il y a plein de chiffres qui sont donnés à l'appui. Disons qu'il y a à peu près un sixième de la population mondiale qui se partage 80% des richesses aujourd'hui. En fait, les inégalités, si le niveau de pauvreté globalement a un tout petit peu diminué depuis 15 ans, il a en fait augmenté dans certaines régions du monde, et notamment en Afrique subsaharienne. Il y a près d'un milliard de personnes qui continuent à vivre sans une eau buvable, je ne dis même pas potable, hein, ne parlons même pas des normes de l'OMS, mais une eau buvable. Il y a 850 millions de personnes qui continuent à vivre dans un état de malnutrition permanente. Donc il y a un certain nombre de chiffres qui montrent que dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, non seulement l'extrême pauvreté n'a pas diminué, mais les inégalités entre ces personnes-ci, cette couche de population et la couche de population des plus riches, est en fait en train de s'accroître. Alors face à ce double constat, la communauté internationale s'est massivement engagée pour une augmentation du financement du développement, et après une diminution de 15 années de ce qu'on appelait l'aide publique au développement et un essoufflement avec toutes les critiques à raison qu'il avait eu sur cette aide, les montants avaient diminué. Donc après cette décennie de diminution, on se retrouve depuis 2-3 ans avec une augmentation massive des financements, ou en tout cas avec des promesses d'augmentation massive de développement. Alors, si je fais un petit schéma, aujourd'hui, j'appelle ça l'aide publique au développement. Bon, il ne faut plus dire aide, il ne faut plus, etc. Bon, moi, je dis l'APD, aide publique au développement, ce sont tous les crédits de coopération qui sont donnés par les pays de l'OCDE aux pays les plus pauvres. On pourra parler plus tard de la signification. Je m'excuse en avance, je vais être très succinct sur un certain nombre de choses parce que je n'ai que 27 minutes. Et donc on pourra revenir sur des choses à détailler ou que je n'ai pas expliqué suffisamment, on pourra revenir dans le cadre du débat plus tard. Donc grosso modo, l'APD, c'est à peu près 80 milliards de dollars par an. Alors je suis obligé de parler en dollars parce que c'est le seul outil de comparaison de tous les niveaux actuels. Sur ces 80 milliards par an, l'Union européenne donne la moitié. Donc l'Union européenne, elle donne à peu près 40 milliards de dollars par an. Et elle augmente. L'aide augmente à la fois en volume, puisque l'Union européenne s'est engagée à augmenter les fonds de 20 milliards par an d'ici 2010 et 40 milliards d'ici 2015, et à la fois en pourcentage, puisque l'Union européenne s'est engagée récemment à passer à 0,56% de son revenu national brut en 2010 et 0,7%, le fameux objectif de 0,7% en 2015. Pour la France, c'est à peu près 7 milliards d'euros. C'est 7 milliards d'euros ou 8,5 milliards de dollars. Voilà. Et donc on voit ici que la France est l'un des premiers contributeurs de l'aide publique au développement, à la fois en volume, hein, et à la fois en volume, loin derrière les États-Unis qui donnent beaucoup, mais à la fois en termes de pourcentage de son revenu national brut. La France aussi s'est engagée, en tout cas il y a eu beaucoup de promesses, de s'engager pour augmenter massivement ces fonds-là. Et elle stagnait autour de 0,30% de son PIB alloué à l'APD. Elle s'est engagée à aller jusqu'à 0,5% en 2007 et 0,7%, ce fameux objectif de 0,7% en 2012. Alors, tout ce que je vous dis, ces promesses d'augmentation des fonds, elles ont été impulsées par cette fameuse série des 8 objectifs de développement du millénaire, en partie, qui ont été donnés dans le cadre des Nations Unies en 2000. Mais aussi, ça répond à un certain nombre d'intérêts de la part des pays, etc. Il faut savoir que l'augmentation, par exemple, en 2004, provient en plus grande partie des fonds donnés à l'Irak. Et puis en 2003, c'était le cas pour l'Afghanistan, etc. Donc il y a aussi tout ce qu'on parle en termes d'augmentation est à relativiser, parce que certains pays, pour des raisons très stratégiques, influent beaucoup sur cette fameuse part d'augmentation. Voilà. Donc j'en ai fini un petit peu pour cette première partie, qui est de dire que face à ce double constat d'inégalité et de pauvreté dans le monde, la communauté internationale, en tout cas pour l'instant au niveau des promesses, elle s'est engagée massivement en termes d'augmentation du financement. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que avant de parler d'augmenter le financement du développement, il faut d'abord s'intéresser à où va cette aide, comment elle est affectée, comment elle est octroyée, et surtout si elle est efficace. Alors, c'est pour ça que Survie soutient la campagne d'augmentation du financement du développement, mais elle intervient surtout à un autre niveau, qui est de dire qu'avant de s'intéresser à l'augmentation de ces fonds, il faut s'intéresser déjà à la façon dont cette aide est utilisée et elle est octroyée. Alors, c'est ma transition pour ma deuxième partie, où en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux critiques principales qu'on peut faire à cette promesse très louable. La première, c'est dans la comptabilisation de l'aide. Parce que si on prend, par exemple, excusez-moi pour la prise du son. Si on prend un camembert comme ça, pour l'aide publique au développement, il faut savoir que lorsqu'on s'intéresse à la façon dont l'aide publique est comptabilisée, il y a un certain nombre de choses, en fait pratiquement 60%, que nous considérons ne pas devoir être prises en compte dans l'aide publique au développement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très directement au secteur social de développement comme l'eau, l'éducation. Alors si on prend par exemple, il y a déjà un bon tiers qui part dans les annulations de dette. Ils sont bien souvent un tour de passe-passe comptable. En 2003, les annulations de dette représentaient 40%, par exemple, de ce qu'on appelait l'aide publique au développement. Alors, c'est bien souvent une dette illégitime ou contractée avec des dictateurs dont la population n'a absolument pas vu la couleur des projets mis en œuvre. Je ne détaille pas plus cet aspect-là parce que Renaud va nous le détailler de façon beaucoup plus approfondie. Ensuite, il y a un tiers qui part à l'Union européenne, hein, dans le cadre du FED, dont on sait un peu l'inefficacité des projets du FED. Je sais, j'en viens.
Guillaume, pouvez-vous dire aux gens ce que c'est que le FED ?
Ah d'accord, excusez-moi. Donc c'est le Fonds européen de développement, hein, c'est-à-dire c'est l'aide européenne qui est prise pas sur le budget de la Commission, mais sur des contributions volontaires des États membres. Ça représente à peu près 15 milliards d'euros pour les 5 prochaines années. Hein, c'est les fameux accords de Lomé, accord de Lomé bis, accord de Cotonou, etc. La France est le premier contributeur du FED. Elle contribue à hauteur du quart de 25% du Fonds européen de développement. D'accord ? Donc cette aide, c'est vrai qu'elle est assez critiquée. Il y a tout un tas de procédures qui sont beaucoup trop bureaucratiques. Et notamment, il y a une pression de la part des États membres d'augmenter rapidement le décaissement de l'argent. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, décaissez l'argent que vous avez, faites des projets pour qu'on puisse dépenser l'argent rapidement. Et la deuxième remarque, c'est qu'en fait, on est en train de passer de l'aide projet à de l'aide sectorielle. C'est-à-dire que, par exemple, autrefois, on donnait de l'argent à un hôpital. On a vu toutes les limites et tous les possibles détournements qu'il y avait dans cette aide projet. Donc aujourd'hui, on passe à une aide qui est sectorielle, c'est-à-dire qu'on ne donne plus d'argent à un hôpital, mais on donne de l'argent au secteur de la santé. Ce qui est tout à fait intéressant lorsque les secteurs sont prêts à mettre en place un programme de ce type. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de passer de cette aide sectorielle à une aide qu'on appelle l'aide budgétaire, qui n'est plus du tout une aide sectorielle. C'est en fait, on donne de l'argent au trésor public du pays. Et messieurs, dames, débrouillez-vous. Alors, ça, c'est dans le principe, c'est tout à fait intéressant parce que c'est le pays qui décide de ses propres priorités de développement et qui décide de la façon dont il va utiliser l'aide, puisque l'argent est fongible. Le problème, c'est quand cette aide est affectée dans des États avec des régimes dictatoriaux, hein, chez Sassou Nguesso, chez Bongo, chez Yadema, où lui peut faire ce qu'il veut de l'argent qu'on met dans le trésor public. Donc le gros danger, il est lorsqu'on est en train de passer, pour l'Union européenne je parle, à une aide budgétaire, qui est de plus en plus d'argent donné dans les trésors publics des caisses de l'État, avec de moins en moins de garanties de transparence de la part des gouvernements. Donc voilà la critique qu'on peut faire sur ce tiers-là du camembert. Et puis sur l'autre tiers qui est donc l'aide bilatérale de la France, c'est-à-dire l'aide qui est donnée non pas à travers des institutions multilatérales ou à travers l'Union européenne, mais de la France à un État donné, par exemple de la France au Gabon, de la France au Congo. Alors là, il y a tout un tas de choses dont on ne comprend pas qu'ils sont comptabilisés dedans. Il y a par exemple l'accueil des réfugiés politiques. Alors, en même temps, la France consolide des pouvoirs en place et soutient des régimes de dictature, et en même temps, elle comptabilise ceux qui sont réfugiés politiques de ces régimes-là et qui arrivent en France, et bien l'aide administrative qui leur est apportée, elle le considère comme aide publique au développement apportée au pays qu'elle est censée aider. Alors vous avez aussi un certain nombre de projets qui sont pour en fait le rayonnement culturel ou l'image de la francophonie à l'étranger. Donc par exemple les alliances françaises, les projets culturels, tout ce qui est RFI, etc. C'est financé à travers la DGCID, donc c'est comptabilisé comme de l'aide publique au développement. Alors on n'arrive pas trop, là c'est bizarre, même les députés qui annuellement passent au crible les comptes n'arrivent pas à savoir quelle est la proportion de l'aide publique au développement qui est affectée au crédit d'audiovisuel et de promotion de la francophonie. Alors un jour, quelqu'un du ministère des Affaires étrangères nous a répondu en disant « Mais non, mais on ne peut pas faire de l'aide publique au développement si en même temps on n'apprend pas aux gens à comprendre la langue française, comme ça c'est de l'intégration dans le monde, etc. » Donc en fait, ça leur permet d'avoir une influence de la France, c'est un outil d'influence de la France. Promouvoir la francophonie, la culture française, pourquoi pas, mais ça doit, en tout cas de notre avis, pas être comptabilisé comme de l'aide publique au développement. Ça représente à peu près 18% de l'aide totale, hein, donc c'est des crédits qui sont énormes, hein, on ne parle pas d'une part marginale. Vous aviez aussi l'écolage, ce qu'on appelle l'écolage, ce sont par exemple les étudiants africains ou les lycéens qui viennent étudier en France, ben, tous ces frais-là de bourse sont comptabilisés comme de l'aide publique au développement. Bien souvent, ce sont en fait des étudiants qui viennent de l'élite des pays, donc souvent des clans en place. Et nous, on pose des questions sur l'utilité de prendre ça en compte dans l'aide publique au développement. Vous avez aussi un certain nombre de choses qui ne devraient pas être au niveau de la coopération jusqu'à récemment. La coopération militaire en faisait partie. Il y a aussi tout ce qui est frais administratifs. Il y a aussi les intérêts. Par exemple, si vous donnez un prêt à un pays pour faire simplement marcher Bouygues, sur des projets qui sont souvent bidons, dans l'utilité contestable, et on donne des intérêts, donc les intérêts qui sont bonifiés, et cette bonification, on la fait passer comme de l'aide publique au développement, et donc on le comptabilise dans cette enveloppe-là, même si le projet n'a rien à voir avec du développement, si c'est juste pour mettre un équipement civil ou parfois militaire, parce que là, on entre dans une zone grise d'un aéroport. Donc voilà un peu j'en ai fini en fait avec ma deuxième partie qui était les critiques sur la comptabilisation de l'aide publique au développement. C'est-à-dire, avant de dire félicitations, nous augmentons l'enveloppe du financement du développement, il faut d'abord savoir comment on la comptabilise et que déjà si on sort tout ce qui est les tours de passe-passe comptable de la dette ou d'autres choses de rayonnement culturel, il ne reste pas grand-chose. En fait, le Coordination Sud, qui est un collectif associatif, avec le CRID d'ailleurs, qui a fait un gros travail sur ce lobbying d'augmentation du financement. La Coordination Sud a publié récemment un rapport qui montrait que tout ce que je vous ai dit, tous les trucs un petit peu bidons, en tout cas qui ne devraient pas être comptabilisés, si on les sort, il ne resterait plus que 44% des fonds de cette enveloppe-là. Deuxièmement, on peut dire que cette aide-là, elle est de plus en plus affectée de façon commerciale ou en tout cas stratégique, c'est-à-dire aux pays dit « émergents », entre guillemets, et pas aux pays les moins avancés. En fait, on a perdu 30%, il y a de moins en moins de cette part d'aide française qui est affectée aux pays les moins avancés. Aujourd'hui, il n'y a plus que 52% de l'aide qui est affectée aux pays les moins avancés. Le reste est allant à la Jordanie, à l'Ukraine, à des pays dont on peut avoir des accords commerciaux avec les entreprises françaises. Enfin, quatrième critique... On peut dire que si on s'intéresse en fait aux secteurs sociaux de base, hein, donc si on enlève tout ça, là, tout ce qui est tour de passe-passe comptable, si on enlève les gros projets énergétiques, les projets pétroliers comme au Tchad dont vous avez entendu parler, si on enlève tout ce qui est aussi administratif, école, culturel, etc., en fait pour les services sociaux de base, c'est-à-dire eau, éducation et santé, on a moins de 8% de l'aide publique au développement qui arrive effectivement, qui est affectée dans ces trois secteurs-là. Alors, on a toutes les sources qui nous confirment ce chiffre-là, moins de 8%. En fait, moi, j'ai montré dans mon ouvrage qu'il y avait 8%, mais Coordination Sud est allée encore plus loin que moi, pour une fois, dans la radicalité, en montrant qu'il n'y avait que 6,5% de l'aide bilatérale qui était affectée aux secteurs sociaux de base, aux santé et éducation. Voilà, donc j'en termine sur ma deuxième partie qui était la comptabilisation de l'aide. Je dirais simplement pour conclure cette deuxième partie que Je passe assez rapidement sur tout ce qui est inefficacité de l'aide, manque de coordination entre les bailleurs. Qui d'entre vous n'est pas allé dans un pays d'Afrique subsaharienne et a vu 40 ONG qui étaient dans la même zone, chacun s'occupe d'une pompe ou d'une école, etc. Il y a une espèce de compétition entre les bailleurs. Il y a une inefficacité totale. Enfin, moi, je reviens du Tchad où j'ai passé 2 ans dans le secteur de l'eau. Et chacun faisait son petit truc, faisait son petit projet. Il y avait vraiment un manque flagrant de coordination. Et malgré la déclaration de Paris qui a été signée par une vingtaine de pays au mois de mars, ça reste encore théorique et il y a beaucoup de choses à améliorer dans cette efficacité. Voilà. Donc, j'en ai fini avec mes deuxièmes parties à la fois sur la comptabilisation et sur l'efficacité de l'aide. Alors... nous, en troisième partie, ce qu'on dit à l'association Survie, et là où on va un peu plus loin que le CRID, qui a été assez actif dans le cadre de la campagne 2005 plus d'excuses, pour augmenter massivement les fonds de développement, mais les fonds réels, et de Coordination Sud, qui critique un peu la comptabilisation, là où nous, on va plus loin, c'est de dire qu'avant d'augmenter les financements du développement, avant même de s'intéresser à l'efficacité, la comptabilisation de l'aide, il faut d'abord agir chez nous, sur le champ politique, pour que d'abord la France arrête de nuire aux populations qu'elle est censée aider. Ça veut dire 2 choses, parce que finalement, l'aide publique au développement, on va dire le ministère qu'on appelait le ministère délégué à la coopération, finalement, l'aide publique au développement, c'est qu'un ensemble de choses parmi d'autres, de l'action extérieure de la France, de la politique extérieure de la France, et qu'en fait, lorsque vous avez des états de non-droit, des dictatures, c'est-à-dire une prise de pouvoir par la force, des élections bidonnées pour légitimer le pouvoir, et un clan présidentiel ou un régime clanique qui s'accapare toutes les richesses nationales et qui met à toutes les rênes des ministères les gars de sa famille, donc ce que j'appelle des états de non-droit total, et bien cette aide-là, non seulement elle est inefficace, il n'y a qu'à interroger tous les coopérants français et européens qui reviennent complètement écœurés de ce qu'ils ont fait dans le programme de la santé ou dans le programme de l'eau. Mais en plus, comment ? Ils ont ? Ah, ça je vous le fais pas dire. Mais en plus, ça pourrit petit à petit un système parce qu'en fait, on cautionne ce sont des pays où les ministres changent tous les 6 mois, où en fait, tous les responsables des projets humanitaires ou des projets de développement sont mis en place et sont nommés par le régime le présidentiel, etc. Et donc tout ce qui est fait n'est qu'un renforcement de la pourriture de ces systèmes-là et se transforme en système de perfusion où il y a de l'argent qui passe. Et enfin, ça consolide le régime en place. Ça, j'insiste là-dessus, c'est qu'une partie de l'aide, en fait, consolide le régime en place, pas nécessairement par les détournements de l'aide projet, de l'aide sectorielle, mais aussi parce que lorsqu'on augmente l'aide budgétaire qui est affectée directement dans les caisses publiques de l'État, et bien lorsque c'est un clan sur lequel on a un régime clanique sur lequel on n'a aucune transparence de budget, c'est de l'aide qui consolide directement le pouvoir en place, qui avec la fongibilité du budget national permet d'augmenter tel ou tel crédit et dit non, mais c'est bon, on s'en est servi pour l'éducation, ne vous en faites pas, et qu'en fait qu'il l'utilise à d'autres fins. Et dernièrement, vous avez en fait... cette aide-là, elle est affectée dans certains pays. En fait, on se rend compte que l'aide française, c'est la plupart du temps dans des pays des anciennes colonies françaises, là où on a nos petits intérêts. Et qu'à côté, vous avez une action extérieure qui est diplomatique et une qui l'est moins, qui l'est officieuse. Hein. Donc vous avez une action diplomatique où vous avez Jacques Chirac qui va féliciter tel ou tel bonhomme pour son élection. Vous avez... Douste Blasi qui va aller faire une visite de soutien à Omar Bongo ou à Sassou Nguesso. Je pense que tout le monde a pu suivre les résultats des dernières élections togolaises, qui a été une véritable mascarade électorale. Je pense que tout le monde a en tête l'image qui a été captée par une équipe de TV5 où les CRS sont arrivés, ont tiré comme ça au milieu de la foule pour disperser tout le monde. Et là, vous avez 2 CRS qui sont venus, qui ont pris les urnes et qui sont partis en courant comme ça avec les urnes. Hein, cette image-là, elle a fait le tour du monde. Ça n'a pas empêché Jacques Chirac de faire pression sur la CDAO pour dire que tout s'était bien passé et de féliciter le nouveau président de la République fort. Donc, moi, j'appelle ça une action officielle, qui est un soutien en fait diplomatique à ces régimes-là et qui contribuent à consolider ces régimes-là. Eh bien, quand vous avez ça, toute l'aide publique, on peut la barrer parce qu'elle ne sert à rien. Non seulement elle ne sert à rien, mais en fait, elle renforce ces régimes-là. Et ça, c'est une critique que fait l'association Survie. On est assez navré qu'il n'y a que cette association et d'autres, quelques-unes d'ailleurs, le CADTM, d'ailleurs, quand on a vu son dernier communiqué de la loi sur la loi pétrolière, rejoint aussi cette critique politique. C'est très dommage que dès qu'on entre dans ce terrain politique, il n'y a plus personne pour critiquer. Et que finalement, moi, je suis allé mercredi dernier à l'Assemblée nationale pour le colloque des ONG sur l'aide publique au développement. Ben, la principale revendication des ONG, excusez-moi, hein, mais je le dis, la principale préoccupation, c'était d'augmenter la part de l'aide publique au développement qui était donnée aux ONG françaises pour qu'elles puissent faire leurs projets en Afrique. C'était la principale question qui revenait, etc. Et que l'important, c'est les populations locales. On ne travaille pas pour les ONG, on travaille pour les populations. Voilà. Alors ça, c'est le soutien diplomatique. Et j'en termine avec le soutien officieux qui est là. Alors là, qui est un certain nombre de connexions, de réseaux. Alors là, vous entrecroisez tout. Vous mettez tout dans une marmite. Vous mettez les gens qui sont dans les mêmes réseaux. Par exemple, vous prenez une loge franc-maçonnique. Hein, on n'a rien contre les francs-maçons, mais il y a une loge qui a dérivé à l'extrême droite depuis une vingtaine d'années, qui est la Grande Loge Nationale de France, dans laquelle on retrouve tous ceux qui sont inculpés, qui sont aujourd'hui mis en examen dans un certain nombre d'affaires. Donc vous avez ces réseaux-là, dans lesquels d'ailleurs toutes les dictatures d'Afrique francophone font partie. Vous avez un certain nombre de mercenaires, d'agences de mercenaires, qui commencent maintenant à racheter la dette. Par exemple, ils ont racheté la dette de l'Angola, ils vont commencer à la spéculer sur le second marché des créances internationales. Vous avez des sociétés ELF, vous avez des anciens ambassadeurs qui appartenaient à ELF qui sont maintenant dans les services secrets. Vous avez des anciens ministres de la coopération qui sont maintenant comme Roussin, qui sont maintenant conseillers Afrique de Bolloré, qui sont responsables Afrique du MEDEF. Et donc vous entrecroisez tous ces réseaux, vous en faites une grosse marmite là.
Vous avez des anciens ambassadeurs qui étaient censés s'occuper du programme pétrole contre nourriture en Irak et qui en fait étaient bénéficiaires des fameux cadeaux de Saddam Hussein.
Voilà, ça ressort.
Aux ambassadeurs Médimé.
Ça ressort. Il y a un certain nombre d'affaires qui sont en train de sortir aujourd'hui et on retrouve toutes en fait toutes les personnes qu'on avait vues dans ces différents réseaux là. Alors. Nous, on voit le soutien officiel et on voit rarement le soutien un peu plus officieux qui se fait derrière les coulisses et dont on a de plus en plus maintenant d'informations. Il n'y a qu'à lire les derniers ouvrages, La France-Afrique, Noir Silence et Noir Chirac, de François-Xavier, qui, par exemple, sur certains exemples, reprenait ça et reprenait un certain nombre, pour chaque pays, toute l'influence de ces réseaux-là. Je ne vais pas les détailler là parce qu'il y a encore deux autres intervenants après moi, mais on pourra revenir dessus dans le cadre du débat. Voilà. Donc, en conclusion, je résume mon intervention. Je disais qu'il y a une situation dans le monde qui est largement inégale et qui laisse dans l'extrême pauvreté 2 milliards de personnes et que cette situation, elle est inacceptable. Certains la qualifient même de crime contre l'humanité. J'en sais rien comment on peut la qualifier, mais elle n'est pas soutenable, ni pour les populations, ni pour nos enfants, ni pour nous-mêmes. Deuxièmement, il y a un engagement massif ou des promesses massives de la communauté internationale en ce sens-là, mais dès qu'on va plus loin et qu'on regarde la façon dont en fait c'est affecté, à la fois comptabilisé et à la fois dont c'est appliqué sur le terrain, eh bien, il y a de grosses choses à faire avant même de prononcer une quelconque augmentation. Et enfin, on entre dans le terrain politique, qui est de dire qu'avant même de s'occuper de cette aide-là, il faut d'abord ne pas nuire en restant chez nous et en faisant pression auprès de nos décideurs pour que la France arrête de soutenir un certain nombre de dictateurs en place et qui, par cette seule action-là, fout en l'air tous les efforts de développement qui sont faits à la fois par nos ONG ou par l'aide bilatérale, mais aussi par les partenaires du Sud, qui sont de plus en plus nombreux, dont les initiatives de la coalition sont de plus en plus nombreux, etc., des gens extrêmement courageux. Moi, des gens au Togo et au Tchad me disaient qu'ils se levaient le matin, ils ne savaient pas s'ils allaient vivre le soir, mais ils continuaient le combat parce qu'ils pensaient qu'il y avait une lueur d'espoir. Et bien, nous, la France, par un canal à la fois diplomatique et officieux, on est en train de foutre tout en l'air. La France-Afrique, ce qu'on appelle donc la France-Afrique, elle n'agonise pas, malheureusement, elle n'a jamais été aussi vive, elle continue, et d'où l'action de survie de continuer ce combat-là et d'avoir de plus en plus de militants dans nos rangs pour le plaidoyer auprès de nos interlocuteurs politiques.